Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, qui pourra bénéficier en France de l'aide à mourir que veut autoriser le gouvernement ? Présenté ce mercredi 10 avril en Conseil des ministres, le projet de loi permettra, s'il est voté, à un médecin d'accorder à un malade le droit de s'injecter un produit létal, mais sous certaines conditions strictes. Depuis sa divulgation, ces critères suscitent de nombreuses questions parmi les soignants. Alors pour bien comprendre les points qui font débat sur ce sujet particulièrement sensible, je reçois aujourd'hui Camille Stromboni et Mattea Battaglia, journalistes Santé au Monde. Elles ont recueilli l'éclairage de nombreux médecins sur ce projet de loi. Bonjour Camille, bonjour Mattea.
Bonjour, bonjour.
Alors, ce mercredi, le gouvernement présente en Conseil des ministres son projet de loi sur la fin de vie, un texte qui a été mûri pendant plusieurs mois. Il était très attendu et il ouvre donc pour la première fois la voie à une aide à mourir en France sous, je cite, « certaines conditions strictes ». Alors, avant qu'on se penche sur ces conditions qui font débat, en quoi va consister exactement cette aide à mourir dont on parle, Camille ?
Donc si on regarde dans les premières versions du projet de loi, l'aide à mourir consiste en l'administration d'une substance létale effectuée par la personne elle-même ou lorsque celle-ci n'est pas en mesure physiquement d'y procéder par un médecin, un infirmier ou une personne volontaire qu'elle désigne. Voilà, donc ça c'est ce qui figure dans le texte. Faut bien expliquer que si les termes ne figurent pas nommément, ça recouvre à peu près les situations de suicide assisté et d'euthanasie, même s'il y a eu beaucoup de débats sur ces termes. Et peut-être rappeler les prochains jalons. Le texte est présenté en Conseil des ministres le 10 avril. Ensuite va commencer le parcours parlementaire qui va être long et ça commence fin mai. Donc on a encore plusieurs mois encore pour débattre des termes et du contenu de l'aide à mourir. Ensuite, on en était donc aux critères. Et sur les critères, le chef de l'État a bien précisé que c'était des critères stricts et ils sont déjà inscrits précisément dans le texte.
Et ce texte, il s'adresse à quel type de patient, à qui précisément ?
Ça a été vraiment précisé assez strictement dans la version initiale de ce texte. On a des patients majeurs qui devront être âgés d'au moins 18 ans, de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France. Ils doivent être capables de manifester leur volonté de façon libre et éclairée. Être atteints d'une affection grave et incurable qui engage leur pronostic vital à court ou moyen terme et présenter une souffrance physique ou psychologique réfractaire.
Et alors sur ces critères-là, vous avez donc interrogé de nombreux médecins parce que ce sont eux qui devront répondre à la demande du malade, décider si oui ou non celui-ci peut recourir à l'aide à mourir. Alors quels sont les principaux points qui leur posent question ?
Alors, on n'était pas sur le pour ou contre une évolution de la loi. Les médecins qu'on a entendus et qui prennent en charge des malades en fin de vie sont des oncologues, des neurologues, des médecins de soins palliatifs. On les a vraiment interrogés sur ces critères et la manière dont eux les perçoivent aujourd'hui. Ils nous ont fait part de leurs questions sur le pronostic vital engagé à moyen terme. C'est ça qui aujourd'hui les questionne. De même que l'évaluation des douleurs réfractaires. Et puis certains patients atteints de maladies neurodégénératives ou de maladies psychiatriques seront-ils ou non éligibles ? Voilà, c'est là-dessus qu'ils se sont majoritairement exprimés.
Ok, maintenant qu'on a posé le cadre de tous ces points qui font débat, on va se pencher dans le détail avec vous sur tous ces critères. D'abord, le fait que le pronostic vital doit être engagé à court ou moyen terme, tu en parlais Mattea, pourquoi est-ce que c'est compliqué, pourquoi est-ce que ça fait débat Camille ?
Alors ce qui fait débat dans ce critère-là, c'est le côté moyen terme. Moyen terme, c'est quelque chose qui semble compliqué à définir quand on entend les médecins qui nous font remonter de toute spécialité. On n'est pas des devins sur ce point-là. Parce que le court terme, ça existe déjà. C'est déjà défini, quelques heures, quelques jours. C'est utilisé notamment pour la sédation longue et continue. Donc, on voit à peu près ce que c'est. Le moyen terme, c'est plus long. Donc, c'est défini à quelques semaines, quelques mois. On a déjà Catherine Vautrin, la ministre de la Santé, qui a précisé que ce moyen terme, ça pourrait être 6 à 12 mois comme notion de temps. Et c'est justement pour ces malades du moyen terme que l'évolution législative a été mise en avant, en disant que c'est ces malades qui n'ont pas de solution. Le problème, c'est que plus l'échéance de la fin de vie s'éloigne, plus c'est complexe de la définir.
Et alors pourquoi est-ce que plus l'échéance s'éloigne, plus c'est difficile pour les médecins d'évaluer précisément ce moyen terme ?
Alors ça marche dans de nombreuses spécialités, mais si par exemple on écoute les cancérologues, ils nous expliquent qu'un malade atteint du cancer, il a bien sûr des médianes définies de survie, on va dire, des médianes du temps qui resterait à vivre, mais c'est une moyenne, chaque patient ne rentre pas forcément dans la moyenne. On avait un exemple d'un oncologue qui nous parlait du sarcome métastatique en nous disant « bon, bah, ça peut aller de quelques mois à quelques années ». Enfin, c'est quand même des grandes variables. Il y a ce côté-là qui est difficile. Ensuite, il y a le côté, il y a des évolutions thérapeutiques qui arrivent sans arrêt et donc qui font évoluer les pronostics vitaux, qui les améliorent en général. Donc, il y a ce côté-là qui pourrait être difficile de figer un pronostic dans le marbre. Et puis aussi, on entendait des cardiologues qui nous expliquaient que certaines pathologies, comme l'insuffisance cardiaque terminale, ça fonctionne par palier. Donc on sait, on connaît les paliers, mais on ne sait pas vraiment la durée de chaque palier. Quelqu'un qui est en insuffisance cardiaque terminale, peut-être qu'il va avoir une année, si on respecte la médiane en pronostic vital, mais ça va dépendre de s'il a des affections, il y a plein de complications qui peuvent arriver dans le temps et qui peuvent faire que les paliers vont aller plus ou moins vite. Donc ça rend juste cette définition très complexe.
Autre point, Mathéa, ce projet de loi mentionne aussi comme condition d'accès l'existence de souffrances réfractaires ou insupportables. Concrètement, qu'est-ce que ce terme inclut et pourquoi est-ce qu'il fait également débat ?
Donc ces souffrances ont cristallisé pendant un an, 18 mois, le débat entre pro et anti-évolution de la loi, avec d'un côté ceux qui soutiennent que la palette d'outils existe pour soulager les patients, pour les apaiser, et ceux qui au contraire estiment que ce n'est pas le cas, que tout patient n'a pas accès aujourd'hui à des services de soins palliatifs. Si on se reporte au texte dans la version qu'on a pu consulter, ces souffrances sont toutes celles que peuvent ressentir les personnes en fin de vie sans perspective d'amélioration de leur situation. Et le texte précise qu'elles peuvent être physiques ou psychologiques. Donc là, on a un cadre qui est bien posé. On peut ajouter que ce sont des douleurs qui persistent, c'est ce que nous ont expliqué les médecins, en dépit du portefeuille de médicaments et d'options thérapeutiques déployées auprès du patient. Aujourd'hui, on a des solutions, enfin les médecins ont des solutions, ils utilisent la sédation proportionnée ou la sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui sont utilisées depuis 2016 et la loi Claeys-Leonetti. Là, il s'agit d'aller au-delà.
Et ce que tu nous dis, Mathéa, c'est que ça pose la question de l'accès aux soins palliatifs, ces services en charge de la douleur, qui n'est pas le même partout sur le territoire français.
Effectivement, et les médecins eux-mêmes ont soulevé cette question. Comment qualifier de réfractaire une souffrance si le patient, au préalable, n'a pu bénéficier de soins palliatifs? La docteure Christine Mathéus nous en a parlé. Le chiffre communément avancé, c'est que 21 départements sont dépourvus de services de soins palliatifs. Alors, pour changer la donne et pour progresser, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a promis un plan décennal avec un investissement de plus de 1 milliard d'euros sur 10 ans au secteur pour se développer. La question qui se pose derrière, c'est celle du vivier de médecins, de soignants, d'infirmiers, d'infirmières pour travailler dans ces services.
Et autre chose, Mathéa, ces souffrances réfractaires, elles peuvent être aussi psychologiques, d'après le texte du projet de loi. Est-ce que c'est nouveau et comment est-ce que les médecins que vous avez interrogés l'ont compris ?
Effectivement, il est question d'ouvrir le critère aux souffrances psychologiques. Et ça, les médecins, ils sont moins habitués. Ils nous le disent. Il y a toujours une part de subjectivité dans l'évaluation de ces souffrances, et notamment celle-ci. Et néanmoins, les médecins, notamment les oncologues à qui nous avons parlé, nous disent qu'il est important qu'on puisse entendre ces patients qui disent « je n'en peux plus psychologiquement ».
Alors justement, venons-en aux soignants, c'est un autre point de ce projet de loi. Camille, concrètement, qui décide d'accorder cette aide à mourir ? Un médecin, plusieurs ? Qu'est-ce qui est prévu dans ce projet de loi ?
Alors dans le texte, ce qui est prévu, c'est qu'on fasse sa demande d'aide à mourir à un médecin. Donc c'est pas précisé lequel, ça peut être le médecin traitant, un médecin d'EHPAD. Ensuite, ce médecin a pour obligation de recueillir plusieurs avis. Il doit recueillir l'avis d'un autre médecin, spécialiste de la maladie s'il lui-même ne l'est pas, et qui ne connaît pas le patient. Ensuite, la deuxième obligation, c'est de recueillir l'avis d'un personnel paramédical, un infirmier, un aide-soignant, qui connaît le malade ou qui ne le connaît pas par défaut. Donc ça, c'est le cadre fixé aujourd'hui pour l'avis médical qui va intervenir. Ça pose différentes questions. Il y a, dans les médecins généralistes et spécialistes qu'on a interpellés, on nous dit quand même que les plus à même de définir le pronostic vital de la manière la plus juste qui soit, c'est quand même les médecins qui connaissent le patient, en particulier le spécialiste de la maladie, mais aussi le médecin traitant. Ensuite, de l'autre côté, il y a la question de savoir si on peut être le plus objectif possible quand on a créé un lien d'intimité avec le patient. Donc voilà, ce sont les enjeux qui se posent derrière ce critère.
Donc si je te suis bien, c'est tout de même un seul médecin qui devra finalement valider cette demande d'aide à mourir.
Oui, en l'état du texte actuel, il devra, sous 15 jours, répondre à la personne qui lui a fait la demande pour lui dire si elle remplit les conditions requises pour accéder à l'aide à mourir. Donc, il faut quand même rappeler qu'il y a une clause de conscience et les soignants qui ne souhaitent pas participer à ce processus pourront refuser d'y participer. Derrière la question des délais, il y a le côté faisabilité, être capable de répondre dans un système de soins, bien sûr, qui est déjà sous pression à des demandes de patients. Et il y a aussi de l'autre côté l'idée que si on met des délais trop longs, ça remet au calendrier grec la réponse du soignant et le patient ne trouvera pas de solution, alors que c'est souvent des demandes quand même relativement urgentes. Donc c'est pas simple. On peut juste rappeler le format qui existe aujourd'hui pour des décisions relativement graves, qui sont les décisions d'arrêt de traitement ou les décisions de limitation de traitement. Aujourd'hui, le format qui est retenu, c'est une réunion collégiale où il y a plusieurs médecins et professionnels de santé autour de la table. Parce que derrière, en fait, le format et la décision, c'est la question de la responsabilité qui se pose derrière.
Mathéa Camille, parmi les voix appelant à une évolution de la loi pour une aide à mourir, on a régulièrement entendu ces derniers mois des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. C'est le quatrième point qui soulève des questionnements. Et la plus emblématique d'entre elles, c'est la maladie de Charcot. Alors, on va entendre l'exemple de Loïc Résibois. Il a été diagnostiqué il y a un an et demi et son état ne cesse de se dégrader. À 46 ans, cet ancien policier que France 2 a pu interroger s'est exprimé sur le projet de loi.
Moi, à un terme, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce que je sais, c'est que pour un certain nombre de maladies incurables, dont la maladie de Charcot, la souffrance peut être insupportable des années avant le décès du patient.
Mathéa, est-ce que les malades atteints de Charcot, c'est-à-dire d'une part, comme vient de le dire Loïc Résibois, qui ont des souffrances très fortes des années avant la mort, mais aussi d'autre part, qui ne pourront peut-être plus parler pour exprimer ce souhait quand ils s'en approchent, est-ce qu'ils pourront bénéficier de l'aide à mourir telle qu'elle est définie dans le projet de loi ?
C'est une question que posent les patients, mais les médecins également. Une fois le diagnostic posé, nous disent-ils, on n'a pas de traitement. Et ces patients vont se retrouver paralysés, avec des problèmes de déglutition, privés de leur capacité de s'alimenter, puis de la parole, puis en insuffisance respiratoire. Certains médecins nous ont dit que le moyen terme vient vite, d'autres au contraire. On peut être très longtemps dans de très fortes souffrances, avec à un moment l'incapacité de s'exprimer et de prendre la parole.
Et ça pose problème dans ce texte de loi, parce qu'il faut exprimer sa volonté de façon libre et éclairée, c'est ça. Et ça ne concerne pas que Charcot, mais aussi d'autres maladies.
Oui, effectivement, pouvoir exprimer librement son souhait est un des critères stricts qui a été émis. Par ailleurs, concernant la maladie de Charcot, il nous a été expliqué qu'un cinquième, à peu près 20% de ces patients souffrent de troubles cognitifs à un moment, ce qui interroge aussi leur discernement.
Camille, tu veux ajouter un point ?
Oui, ça pose aussi la question des patients atteints d'Alzheimer qui ne devraient pas donc être concernés. Et les médecins nous ont aussi parlé de tous ces patients qui sont dans un état végétatif persistant après un très grave accident, après un traumatisme crânien et donc qui sont pas en capacité d'exprimer leur consentement. C'est notamment pour eux aussi que l'évolution législative a été évoquée au départ et pourtant ils ont l'air de ne pas rentrer dans ces critères. Donc c'est voilà, les médecins posent la question. Avec un dernier point, c'est le fait quand on dépend très fortement d'une aide médicale pour respirer, pour se nourrir, est-ce que cette aide, ce support médical, on en tient compte quand on calcule le pronostic vital ? Ça peut paraître un peu technique, mais certains, sans l'aide médicale, ils peuvent décéder dans les jours qui suivent. Donc on peut dire, bah oui, ils rentrent dans les critères. Mais si on leur laisse l'hydratation et l'alimentation artificielle, bah, ils peuvent vivre comme ça pendant des années. Donc ces patients-là, on les met dans quelle case ?
Dernier point, Camille, pour conclure cet épisode qui soulève des questionnements, celui des maladies psychiatriques. Est-ce que les patients atteints de ces maladies sont concernés par le projet de loi ?
Alors, si on écoute Emmanuel Macron quand il a présenté les grandes lignes du texte, les malades psychiatriques ne sont pas concernés parce qu'il faut un discernement plein et entier. Ça, c'est ce qu'a dit le président. Ensuite, quand on regarde dans le texte, c'est pas écrit en ces termes. Il faut s'arrêter sur la définition de la souffrance. C'est ce qui permet de voir que est éligible une souffrance réfractaire qui est due à une maladie engageant le pronostic vital. Donc, ça ne peut pas être une souffrance liée à un trouble psychiatrique. Donc, de ce côté-là, on peut imaginer que les malades psychiatriques sont exclus. On a appelé des psychiatres qui nous expliquent qu'une douleur psychologique, une douleur mentale peut bien sûr être réfractaire. Elle peut être même bien pire qu'une douleur somatique. Mais en revanche, elle n'engage pas le pronostic vital à court terme ou à moyen terme ou à long terme, médicalement parlant. Donc de ce côté-là, ça exclut les patients psychiatriques. En revanche, à écouter les psychiatres, on ne peut pas dire qu'un malade psychiatrique n'a pas son discernement. Donc si jamais, à un moment de sa vie, il est touché par une pathologie qui engage son pronostic vital, ils nous disent qu'il pourra prétendre à l'aide à mourir. Il faudra juste évaluer ce qui ressort de la souffrance psychiatrique, de sa maladie psychiatrique, ou ce qui relève de sa souffrance liée à une pathologie autre qui engage le pronostic vital. Voilà, donc c'est une question complexe.
Merci Camille, merci Mathéa.
Merci.
Merci.
Cet épisode a été produit par Marion Botorel et réalisé par Thomas Zeng. Et si vous voulez suivre le parcours législatif et les débats suscités par ce projet de loi sur la fin de vie, vous pouvez aller consulter tous les articles du service Société sur lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques ou questions, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heuredumonde@lemonde.fr. L'Heure du Monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Je vous dis donc à demain pour un nouvel épisode.